Bonjour, vous écoutez bien Agora Côte d'Azur et bienvenue dans l'émission Lézard des Lézards. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la cathédrale Notre-Dame-du-Puy, plus communément appelée la cathédrale de Grasse. Construite au XIIe siècle, c'est un monument classé historique, joyau de la ville de Grasse qui regorge d'anecdotes et d'œuvres en tout genre. Découvrons ensemble son histoire et celle des trésors qu'elle cache précieusement. Lézard des lézards. Tout d'abord, je vous invite à une petite visite auditive. Fermez les yeux, écoutez bien et imaginez ce que je vous raconte. Je vous retrouve donc sur la place du Puy, face à la façade ouest de la cathédrale. C'est un bâtiment massif construit en pierre blanche calcaire appelée pierre de la Turbie. La façade est épurée, elle contient peu de détails. Une statue de la Vierge surplombe la porte d'entrée. L'entrée est formée par plusieurs arcades superposées en forme d'arc brisé. La porte est en noyer, lourde et imposante. On remarque un impact de boulets de canon tirés lors du siège de la ville par les Ligueurs en 1589. Face à cette cathédrale, on se retrouve comme écrasé sous la masse du monument, froid et imposant. Pour entrer, un escalier double qui passe d'un côté et de l'autre d'une crypte. Entrons voir les trésors de plus près. En entrant, l'allée centrale est remarquable. Le sol est carrelé, un pavement refait en 1714 au profit de l'installation de caveaux funéraires et de la création de la crypte. Des piliers cylindriques massifs en pierre blanche brute qui sont devenus noirs suite à l'incendie de 1795. Certains endroits ont éclaté à cause de la chaleur. Il y a 12 piliers, ce qui rappelle que l'église s'est bâtie sur la proclamation de la foi des 12 apôtres. Ne pas oublier que l'église est un lieu d'éducation des fidèles. Le plafond au-dessus de l'entrée, nommé narthex, a été refait récemment pour l'orgue. En avançant, on voit le plafond initial de la cathédrale. On entre alors dans la zone de la nef. Le plafond est recouvert de voûtes d'ogives quadripartites, c'est-à-dire des voûtes qui se croisent en croix. Ce sont des éléments qui rappellent la tradition lombarde, c'est-à-dire tradition venue tout droit de l'Italie. C'est un plafond moyen, il n'y a pas les vertiges des hauteurs de certaines cathédrales. Le spectaculaire se trouve plutôt dans la masse de la cathédrale et non pas dans la hauteur. Dieu est puissant, on doit le ressentir dans un lieu sacré par la hauteur ou autre chose. Et ici, c'est le poids qu'il a sur nous, nous, êtres inférieurs. Juste en face de nous, il y a un petit vitrail, le seul point de couleur vive et d'entrée de lumière, ce qui crée une voie vers laquelle aller, là où l'œil est attiré. C'est encore une fois une indication pour le fidèle qui entre. En avançant, on découvre une croix massive avec Jésus crucifié sur la droite. Encore une fois, c'est ici un symbole du poids de la religion. À gauche, nous arrivons alors dans le transept, c'est-à-dire la fin de la nef centrale, l'endroit qui forme les bras de la croix perpendiculaire à l'allée centrale. Nous sommes ainsi face à l'autel principal. Il y a des tableaux en arrière-plan inaccessibles à nous. L'autel est blanc et doré. C'est l'endroit le plus éclairé par des lumières artificielles pour ainsi créer plus de clarté. C'est le centre de la cathédrale. On va partir plutôt à gauche, étant donné qu'il y a quelque chose qui m'interpelle. Il s'agit d'un monument aux morts en l'honneur des soldats de la guerre 14-18. Rappelons donc que nous sommes dans une église et qu'il y a ici un monument républicain. En se retournant vers la sortie, on y voit l'orgue et les statues qui le surmontent, c'est-à-dire un harpiste, un joueur de lyre et bien d'autres encore. Il y a d'ailleurs le seul autre vitrail de couleur au-dessus. En continuant d'avancer vers la sortie, nous nous trouvons face à une vitrine qui expose plusieurs œuvres, ce sont des reliquaires. Puis nous tombons sur le prochain tableau, peint par Charles Nègre, né à Grasse en 1820, mort à Grasse en 1880, est écrit sur un panneau doré. Il s'agit là de la mort de Saint Paul. Un petit écriteau en guise de page explicative nous informe qu'il est classé monument historique. Saint Paul est le premier ermite, il vit dans le désert, dans une grotte. À sa mort, Saint Antoine sort le corps de Saint Paul, chante des hymnes selon la tradition de l'église catholique. Il est embêté car il ne peut pas enterrer son ami, il se résout donc à mourir à ses côtés. Deux lions arrivent, par l'appel de Dieu, ils creusent pour lui et offrent une sépulture à Saint-Paul. Saint-Paul est couché, il est blanc, avec un drap qui se fond dans sa chair. C'est un homme vieux et maigre, il a les traits du visage crispés, il n'est pas en paix puisqu'il n'est pas encore enterré. Il a la tête sur un tronc, avec une auréole subtile qui l'entoure. Un lion lui lèche les pieds, couché à côté de Saint-Antoine. Saint-Antoine est quant à lui accroupi et regarde Saint-Paul. Il est en habit marron afin de contraster avec les habits du défunt. Son visage est triste et désolé, il a les joues rosies pour représenter la vie. Une fine auréole encore moins perceptible entoure son visage. Une lionne est au deuxième plan, elle creuse la sépulture. C'est un paysage aride, désert, qui représente le dépouillement. Charles Nègre a réussi à travailler des traits fins, des chairs palpables de par les muscles et les os remarquables sous la peau. Il a un souci de réaliser une scène religieuse contenant peu d'éléments religieux, hormis les auréoles, et probante de réalisme afin de toucher, sûrement, les croyants les plus sceptiques. Il provoque ainsi la tristesse réelle face à une scène macabre, il pousse à la solennité. Nous arrivons ensuite à l'œuvre de Raymond Raspail, Assomption 1727. On y voit la montée de la Vierge dans le ciel, flottant en habits rouges et bleus, sachant que le rouge est la couleur du sang, ce qui rappelle qu'elle a perdu son fils, et le bleu est la couleur de l'immortalité, de la paix et de la noblesse. Une lumière au-dessus d'elle représente Dieu. Il y a également deux hommes bien vêtus, qui sont sûrement des mages ou des commanditaires de cette œuvre, étant donné qu'ils étaient représentés dans les scènes religieuses importantes afin de s'attirer les bonnes grâces de l'Église. Il y a également la présence de la Bible et une ville en fond qui est sûrement Jérusalem. Deux autels se font face de part et d'autre de la porte, un autel pour chaque début d'allée latérale. À droite en entrant, nous y voyons la Vierge à l'enfant, couronnée, et à gauche, Joseph, qui tient une fleur de lys en symbole de sa virginité, étant donné qu'il n'est pas le père de Jésus. Des autels baroques, blancs et dorés, tiennent sur des pattes de fauve. Nous arrivons ensuite aux trois tableaux de Rubens. Nous avons donc Sainte-Hélène qui est centrale, l'érection de la croix à gauche et le couronnement à droite. Sainte-Hélène est connue pour avoir organisé la première restauration des lieux saints chrétiens de Jérusalem. Elle se rend dans la ville en 326, à 75 ans, pour y trouver les saintes reliques de la Passion du Christ. Elle donne ainsi l'impulsion au pèlerinage en Terre Sainte et à l'aménagement des lieux saints. En réalité, c'est son fils qui a ordonné cette restauration, il s'agissait de l'empereur Constantin. De plus, son voyage, que beaucoup vont interpréter comme le premier pèlerinage, n'était sûrement mû que par des raisons politiques en sa qualité d'impératrice. Elle fonde l'église du Paternoster et la basilique de la Nativité et selon la tradition, elle découvre bien les saintes reliques à Jérusalem. La découverte légendaire la plus importante d'Hélène est l'invention de la vraie croix. Le tableau de Rubens représente ainsi la découverte de la vraie croix par Hélène à Jérusalem. On y voit donc Hélène au centre qui regarde les angelots la couronner. C'est une couronne végétale en rapport avec la sagesse. Elle est vêtue richement, c'est une impératrice, elle a donc une parure dorée et brodée. 9 angelots sont du côté gauche du tableau, il la part et l'admire. Elle tient un sceptre, ce qui montre sa puissance, un des anges nous regarde, ce qui est un clin d'œil de l'artiste. Ce sont d'ailleurs les angelots qui tiennent la croix massive. Le second tableau, le couronnement, représente le supplice de Jésus lorsqu'il est retenu par les soldats romains. Il est déguisé en roi avec une couronne d'épines et un manteau de pourpre et il est giflé. Rappelons que la monarchie a été instituée contre la vie de Dieu, c'est donc un outrage de déguiser Jésus en un roi. On y voit donc Jésus, au centre, le personnage principal, qui est donc le plus éclairé. Il a un visage de tristesse et de lassitude, il est entouré par 9 personnages qui l'habillent, le déshabillent, lui mettent la couronne. Ils ont tous des visages de sauvages et une peau de bête en habit. Il représente donc l'état de l'homme primitif, sauvage, à l'état de nature sans Dieu. L'érection de la croix, enfin, est le moment où Jésus est crucifié, monté sur la croix. Jésus est en diagonale, il prend tout le tableau. Il capte la lumière, en contraste avec le rouge dominant et le bois foncé de la croix. Il est vêtu d'un drap qui ne cache que son intimité. 10 personnes le montent sur la croix, ce qui montre l'effort que ce doit être tant c'est inhumain. Et en bas à gauche, nous avons 2 femmes qui pleurent Jésus, qui doivent être Marie et Marie-Madeleine. En fond, nous avons un des 2 larrons qui regarde Jésus. C'est celui qui va écouter Jésus et qui va être épargné. Le visage du Christ est singulier étant donné qu'il n'affiche aucune peur, c'est la calme du divin. Ce sont donc trois tableaux particuliers, troublants de réalisme et de théâtralité. Il y a beaucoup de jeux d'ombre, ce qui accentue l'intense tragédie des tableaux. Seule Sainte-Hélène est claire. Il n'y a pas de signe religieux, mis à part les lumières qui poussent l'œil à voir ça en premier. Enfin, nous arrivons sur le bras droit de la croix que représente la cathédrale. Là, il y a une scène à part entière. Elle est plus éclairée que le reste de la cathédrale. Quatre sculptures de saints sont dans des niches. Nous avons Saint-Marc avec le lion, Saint-Matthieu avec l'ange, Saint-Jean avec l'oiseau et Saint-Luc avec le bœuf. Il y a beaucoup de décorations murales, d'impressions de rideaux, fioritures dorées et bleues, fleurs, anges, ailes, nuages. Au centre, dans un emplacement conçu spécialement pour lui, nous retrouvons le tableau « Lavement des pieds de Fragonard ». Le lavement des pieds est un acte rituel en mémoire au lavement des pieds des apôtres par Jésus-Christ la veille de sa passion, juste avant de se mettre à table pour la dernière scène. C'est un signe de purification et de service mutuel parmi les disciples. Il y a en effet 12 personnes hormis Jésus au centre en rouge. C'est une couleur qui annonce sa mort à venir. C'est une représentation humble dans un décor de temple antique. Jésus est au centre, il lave les pieds d'un des apôtres. Ils sont tous gênés et se lamentent. Ils prient, sont agenouillés, tristes derrière des colonnes. Seul le visage de Jésus se distingue des autres, il y a la lumière sur lui. Détail en tout genre, il y a beaucoup d'objets et d'architecture, ce qui promet beaucoup de hors-champ. Rien n'est centré en termes de décor, seul Jésus et les apôtres sont au centre. L'éclairage à la bougie mis en place dans ce tableau provoque un jeu de contraste et de clair-obscur. C'est une idéalisation de la scène, un endroit antique, la réécriture de l'histoire pour la rendre plus lyrique et héroïque, ce qui accentue le romantisme de la scène. En continuant la visite, on tombe sur le retable de Bréa, qui représente Saint Honorat. Saint Honorat est un homme d'église qui a vaincu le diable sur les îles de Lérins. C'est un homme reconnu et célèbre déjà pendant ce siècle. En effet, il porte une tenue riche, spectre et couronne, ce qui représente sa puissance. Nous avons ensuite le mariage mystique de Sainte Catherine de Bourdon. Catherine d'Alexandrie déclare qu'elle n'épouserait qu'un jeune homme supérieur à elle par la beauté, la culture et le rang social. La Vierge lui apparaît, lui dit qu'elle n'est ni belle, ni intelligente, ni de noble condition, car elle est non baptisée. Catherine se fait donc baptiser, Jésus lui apparaît et lui donne un anneau, symbole de leur mariage mystique. On y voit donc Sainte Catherine vêtue d'une tunique ocre. Elle va être torturée et décapitée car elle refuse un mariage, étant déjà mariée à Dieu. Jésus lui met l'anneau au doigt, des témoins voient la scène. Originellement, c'est une vision, pas une scène avec témoins. En arrière-plan, nous avons une ville d'Orient, ce qui est sûrement une référence au pays de Jésus, Jérusalem. Et ce sera tout pour aujourd'hui pour la rapide visite de la cathédrale de Grasse. J'espère vous avoir intéressé et vous avoir donné envie de visiter notre belle cathédrale Notre-Dame-du-Puy. Et je vous dis à très vite dans Les Arts des Lézards sur Agora Côte d'Azur.